16h-17h, Carl Zéro sur Europe 1.
Oh, mais c'est pas vrai.
Ça fait quand même une surprise, non?
Bonjour et bon début de milieu d'après-midi. Voici en stéréo et direct des studios d'Europe numéro 1, l'heure venue de retrouver Carl Zéro et ses tontons flingueurs. Aujourd'hui, deux tontons flingueurs pur jus vont s'affronter dans un quiz ébouriffant qui, s'il fait rire, fait aussi réfléchir. Deux tontons de grande classe, des durs, des vrais, des tatoués. J'ai nommé Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé Alain Maillard de la Morandais. Ça fait énormément de noms, mais s'ils ne sont que deux, ils vont faire du bruit pour sept.
Mes chers compatriotes, mes bien chers amis, mon cher Patrick.
Bonsoir Carl.
Bonsoir. Mon cher père, ou tu préfères Alain ?
Alain, parce que tu n'es pas mon fils.
C'est pas ce que maman a dit. Eh oui, mes chers tontons, flingueurs, vous allez devoir répondre avec autant de sagacité que d'honnêteté à un nombre hallucinant de questions, toutes plus politico-sociétales les unes que les autres. Le gagnant de ce quiz en 6 manches repartira avec un cadeau mirifique. Mais d'abord, il vous faut choisir votre camp. Eh oui, car vous le savez, notre quiz citoyen a pour but, avant tout, de réduire la fracture sociale. Donc l'un d'entre vous va représenter la France d'en haut et l'autre la France d'en bas. Les prix, évidemment, ne sont pas les mêmes. Sinon, ça voudrait dire que l'égalité existe et il ne faut pas déconner quand même. Et donc l'abbé, tu es ?
La France d'en haut.
La France d'en haut, les gars. Ça veut dire que PPDA représentera les Gilets jaunes et la France d'en bas. Heureux, Patrick ?
Ah bah oui, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes dans la France d'en bas. Il y a la France qui regarde la France d'en haut, et notamment la France qui est au ciel, c'est-à-dire la baie de la Morandais.
Bravo, voilà. tu nous mélanges un peu les pensées, mais c'est pas grave. Alors, puisque tu représentes la France d'en bas, je te rappelle que tu peux gagner moins 5% sur une sélection d'articles de mode chez Kiabi, qui habille entre autres Martine Aubry. Voilà qui te réjouit.
Oui, c'est sûr, mais ils ont ça pour hommes aussi.
Ils ont pour hommes, oui, qui habillent, c'est hommes et femmes.
Ça me va, très bien.
Quant à toi, mon père, tu joues pour le prix France d'en haut. Un week-end de 12 heures dans la Sarthe avec Pénélope, l'épouse de François Fillon. L'île Maurice, nous n'avions pas en magasin. Anissa.
Patrick Poivre d'Arvor est avec nous, Carl, aujourd'hui parce qu'il y a un livre qui paraît chez Grasset, La vengeance du loup, des années de l'Algérie française au Palais National. La vengeance du loup va vous offrir une grande fresque qui nous fait pénétrer dans les arcanes du monde politico-médiatique français. Et ça, ça va vous plaire, Carl.
J'adore ça et je sais que Patrick, quand il parle du petit monde politico-médiatique, s'y connaît.
Je l'aime. Enfin, je l'aime. Je le regarde, je le contemple, j'en fais partie, hein, j'en ai fait partie en tout cas.
Tu en fais encore partie, Patrick.
Abondamment, mais je les vois fonctionner, notamment les hommes et les femmes de pouvoir. Et je trouve que c'est très romanesque. Il y a tout ce qu'on apprend dans les journaux, mais il y a tout ce qu'on ne sait pas. Notamment les coulisses, les alcôves et bien d'autres choses.
C'est
et je
peu,
raconte tout ça dans
c'est
la vengeance
un peu à clé.
Du loup.
C'est un peu
oui,
à clé.
Il y en a quelques-uns.
Bon, on reconnaît.
On peut les reconnaître, mais en même temps, on se trompera forcément parce que certains ont pris des caractères des autres. Mais globalement, je peux vous dire que tout ce que
mais
je raconte,
vous
je
l'ai comment vous vous arrangez avec le secret professionnel?
Eh bien justement, c'est un roman. Donc à partir du moment où il y a un roman, je peux habiller la vérité comme le faisait Aragon. Et je crois que je m'en sors
pas mal.
Il
est très en haut pour un en bas. Hein.
Le propre d'un tonton flingueur étant d'en avoir sous le capot, c'est votre cas à tous les deux, c'est-à-dire de posséder une biographie longue comme un jour sans pain. Je vous propose de retracer vos carrières en quelques points. Certains seront vrais, d'autres faux, car on ne se refait pas. C'est ce qu'on appelle la bio quiz express. Chacun d'entre vous peut et doit même stopper sa bio quand il pense que c'est une fake news. Il lui suffit alors, c'est très facile, de lever la main. Vous avez chacun une main. Voici donc la vie de l'abbé racontée par Elie Semoun, alias Ganesh.
Alors, l'abbé Alain Maillard de la Morandais est né le 29 novembre 1835 au Croisic.
Il lève la main, eh oui. Erreur de fiche. Évidemment, l'abbé est né en 1385.
Ah, voilà, oui. Le futur abbé fait ses études secondaires aux Antilles et suit 28 mois de service militaire comme officier SAS en Algérie.
Alors SAS, c'est quoi? C'est comme dans Gérard de Villiers?
Section administrative spécialisée. C'est un remake des officiers des affaires indigènes que Lyautey avait inventé.
Pendant ton service militaire, certaines méthodes employées par les militaires vont te chagriner, l'abbé.
Plus que chagriner, révolter.
Raconte.
La torture. La torture détective. C'est-à-dire torturer un prisonnier pour obtenir des renseignements. Donc je me suis opposé très rapidement. J'avais 25 ans, donc j'étais abreuvé de menaces, de calomnies. C'est bien parce qu'à 25 ans, quand on reçoit tout dans la gueule, ça vous structure. Hein.
C'était le passage du feu de l'abbé de la Morandais, mais c'était courageux à l'époque de dénoncer ça, surtout en y étant.
Oui, et là j'ai compris que je ne ferais pas carrière dans l'église.
Et pourtant tu l'as fait.
Non.
Tu veux dire que tu aurais pu être cardinal, voire pape?
Oh non, pape, ça va pas. Quand j'étais petit, je vais te faire une confidence, on m'appelait Papinou.
Papinou.
Et pourquoi?
Si tu veux, je t'appelle Papinou.
Pourquoi? Parce qu'on dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Pape.
Je veux être pape. Mmh. Et pourquoi? Parce que même maman m'obéira.
Mmh. Wow. Pas mal.
Merci l'abbé, on va passer maintenant à On nous cache tout, on nous dit rien concernant notre ami Patrick Poivre d'Arvor qui nous fait le plaisir d'être là. Et c'est Laurent Dutch alias Ganesh qui nous parle.
Bonjour à tous, PPDA publie à 17 ans son premier roman Les Enfants de l'Aube qui se vend à 1 700 000 exemplaires, à 18 ans son deuxième roman Deux Amants, se vend à 1 800 000 exemplaires, à 19 ans son troisième roman La Traversée du Miroir.
Stop. Là, ça démarrait bien.
Oui.
Donc logiquement,
son nouveau roman La Vengeance du Loup qui sort ce mercredi devrait se vendre à plus de 7 millions, normalement, si on fait les calculs.
Alors, ça, on sait jamais.
Ganesh.
En 2007, PPDA fend l'armure et ose dire à Sarkozy qu'il a l'air excité comme un petit garçon au G7. C'était vrai, mais Sarkozy le prend mal.
Et c'est pour ça que tu es remplacé par Laurence Ferrari.
Et voilà, mais bon, on est toujours remplacé par quelqu'un. C'est la vie de ce milieu qui bouge beaucoup, qui est assez tumultueux.
Hein. Un milieu de merde, on peut le dire.
Non, un milieu étrange, un milieu qui suit comme ça.
Comme tu es poli, Patrick.
Non, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de suivre le désir d'un président de la République quand on est patron d'une chaîne privée?
Moi, parce que c'est lui qui vous a nommé et qu'on écrase.
Une chaîne privée, non, normalement. Une chaîne publique, oui, mais une chaîne privée, non. Bon, ça reste pour moi un grand mystère.
Ça sera le mot de la fin pour cette première manche. Anissa, tu nous fais les comptes.
Eh bien, en toute mauvaise foi, car je peux vous dire qu'ils sont tous les deux à égalité, nos tontons. Aujourd'hui, ils sont très en forme puisqu'ils ont débusqué toutes les fake news de leur parcours un partout.
Ce sont vos deux jingles.
Ah, c'est mignon.
Voilà. Ah bah oui, TF1 et l'église. Tu te souviens que tu as été à l'église autrefois. T'as pris ta retraite?
Il n'y a jamais de retraite chez nous. Je suis en dessous du gilet jaune. Je suis à 1000 euros par mois.
Eh bien, nous ferons une quête parmi le public qui sera généreux, je le sens.
Et bientôt le mouvement des soutanes blanches.
Une quête en billets uniquement, pas de pièces.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 jusqu'à 17h. Carl Zéro, entouré de ses tontons, flingue l'actualité avec aujourd'hui autour de la table l'abbé de la Morandais et Patrick Poivre d'Arvor. Dans un instant, on va jouer avec les citations du pape. Et jusqu'à 17h sur Europe 1, vous êtes avec Carl Zéro et ses tontons qui flinguent toute l'actu autour de la table aujourd'hui. L'abbé de la Morandais et Patrick Poivre d'Arvor qui en profite pour nous présenter son nouveau livre, La Vengeance du Loup, paru chez Grasset.
Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, a dit le Christ, l'abbé.
C'est la base de la laïcité.
Je vais donc vous demander de rendre au pape François ce qui vient de lui et de déterminer ce qui ne vient pas de lui. C'est le quiz « Le pape a dit ».
Le pape a dit.
Et c'était Eddie Mitchell. Tu as reconnu l'abbé. Et oui, le pape a dit ou il n'a pas dit. À vous de me le dire. Je vous donne donc des propositions et vous me dites « pape a dit » ou « papa pas dit ». Bon, alors on arrête la musique, l'abbé a fait « oh non, pas ».
Ça lui rappelle le boulot.
Les Martiens ont aussi le droit d'être baptisés.
Non. Papa a dit.
Papa a dit.
Bande de guignols. Il l'a dit. C'était le 12 mai 2014 pour inciter les prêtres à ne pas mettre des obstacles au baptême. Les chrétiens ne doivent pas, l'abbé, fermer la porte à ceux qui frappent et refuser le baptême.
Ça, je suis bien d'accord. Anissa, j'aurais beaucoup d'exemples à donner de curés qui sont très maladroits et pas accueillants là-dessus.
Et Anissa me disait qu'elle voulait se faire baptiser et qu'elle avait trouvé la porte fermée.
Absolument. Oh.
Deuxième proposition. J'ai choisi le prénom de François car je veux être moi aussi un pape normal.
Oui, il a dit.
Et non, Patrick, il ne l'a pas dit.
Non, mais c'était...
C'est François Hollande. C'est François Hollande. C'est perdu. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Oui,
a dit.
Eh ben non, il ne l'a pas dit, vous êtes deux clowns. C'est Macron qui l'a dit en 2017 à Athènes, voyons. Attention, le confessionnal n'est pas une teinturerie.
Pas dit.
Oh, il l'a dit, alors, pour me démarquer.
Bravo, Patrick. C'est une citation du pape que tu ignorais, mais bah c'était oui. En mars 2017 à la maison Sainte-Marthe que tu fréquentes régulièrement.
Et c'est là où,
mon
il,
cher abbé.
C'est là où il habite, d'ailleurs. C'est là où il dort.
Bien sûr. Et c'est là où il confesse ce qu'il demande. Le pape François a dit à tous les prêtres, vous devez résister à la tentation des gilets jaunes.
Non, alors là, ça c'est du quart zéro pur.
Ok, le pape a dit, ma personne est sacrée.
Ça dépend du contexte, là, encore.
Jean-Luc Mélenchon devant une porte fermée.
Il a de l'humour.
Bonne réponse de Patrick.
Ma personne est sacrée.
Saint-Pierre n'avait pas de compte en banque.
Oui, il l'a dit.
Bien, bonne réponse de l'abbé.
Bravo.
J'ai fait plusieurs boulots, notamment videur de boîtes de nuit.
Non.
Eh ben si, étudiant, il a fait ce petit boulot de videur de boîte de nuit.
Ah ben je savais pas.
Et quand il y avait des bagarres, il distribuait gratuitement des pains. Et à l'issue de ce quiz papal, Anissa nous révèle...
que nous sommes encore sur une égalité, car il y a 5 partout entre Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé de la Morandée.
Alors, je me tourne vers l'abbé. Tu nous as dit tout à l'heure que tu avais donné l'extrême onction à Johnny Hallyday.
Oui, j'ai fait la connaissance de Laetitia il y a 2 ans maintenant. C'était un baptême chez Marc Lavoine.
Oui.
Et donc, elle m'a pris à part. Contrairement à ma réputation, je ne connais rien aux people.
Connaissais Johnny quand même?
Oui, bon, c'est pas ma tarte de thé. Hein.
Ta tarte de thé?
Non. J'aime pas beaucoup les évadés fiscaux ni les idoles. Je suis contre les idoles.
Oui, enfin, c'était pas le vôtre.
Désolé. Donc Laetitia m'a pris à part, elle m'a fait une confession de grande spiritualité. Elle m'a demandé de prier pour son mari, ce que j'ai fait tout l'été. Et puis le 5 décembre, il y a un an...
2 ans avant, elle te demande de prier pour son mari?
Oui.
Ah bah elle voyait le coup venir. Donc...
Il ne faut pas être très grand médecin pour deviner qu'il n'en avait pas pour longtemps, quand même.
Bien, hein. OK.
Et donc, le 5 décembre, au matin, à 2h du matin, je reçois un coup de fil. Elle me dit, il faut venir demander l'extrême onction à Johnny, voilà.
Et tu ne dormais pas, tu étais en boîte.
Non, tu t'éveilles. Et aussitôt après mon passage, qui est venue, Brigitte Macron, qui a très bien organisé les choses.
Et elle t'a demandé de préparer aussi l'extrême onction d'Emmanuel.
On n'en est pas là. On ne tire pas sur une ambulance, Karl.
Restez avec nous sur Europe 1 jusqu'à 17h. Karl Zéro revisite toute l'actualité avec ses tontons aujourd'hui autour de la table. Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé de la Morandée. Restez avec nous parce que dans un instant, on va parler complot, Karl. À tout de suite.
J'adore ça.
16h, 17h, Karl Zéro sur Europe 1.
Et jusqu'à 17h sur Europe 1, on s'informe et on s'amuse avec Karl Zéro et ses tontons flingueurs autour de la table aujourd'hui. Patrick Poivre d'Arvor, l'abbé de la Morandée et bien sûr Ganesh qui est avec nous.
Sans oublier Anissa qui vient de, pour une fois, ne pas se détendre.
Karl, j'en profite pour vous rappeler qu'à la fin de l'émission, vous saurez enfin qui a trouvé la fausse pub du jour qui circulait sur les écrans d'Europe 1. Et aujourd'hui, qui a remporté la PlayStation 4 Slim? Eh bien, restez avec nous.
Internet, c'est bien connu, les médias d'ailleurs le répètent en permanence, est devenu un déversoir à ragots conspirationnistes. Avant, les agences de presse, les journalistes donnaient une info vérifiée qui était donc donnée par les agences. Mais maintenant, ils sont réduits, Patrick, à trier des fake news sur les réseaux. C'est un autre métier, tu ne diras pas le contraire.
Non, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que pour les jeunes journalistes, il y a du travail à faire, notamment dans les réseaux sociaux. Quand on dit c'est un métier embouteillé, non, je pense que ce sera très intéressant qu'ils puissent confronter leur point de vue à des points de vue qui sont donnés comme ça, parfois ex nihilo, parfois ex cathedra, et en tout cas d'une manière aléatoire.
Alors concentrez-vous, car c'est le quiz du complot. Laquelle de ces allégations sulfureuses a-t-elle été relayée par la presse, lui donnant du même coup un certain crédit? On écoute les trois et on répond ensuite. La première allégation nous est racontée par Jean-Luc Mélenchon lui-même.
La profanation de l'Arc de Triomphe est l'œuvre des membres de la DGSI, surnommés les petits casseurs de Castaner, chargés par ce ministre de décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes aux yeux des Français.
Alors c'est pas Mélenchon qui a dit ça,
oui.
C'est Dupont-Aignan.
Et on va y revenir. Deuxième allégation. Stéphane Bern.
La profanation de l'Arc de Triomphe est l'œuvre du célèbre performeur Banksy, personnage mythique de la scène graffiti, illustre artiste revendicateur. Aucun fait social ne sait lui résister tant il est incisif et décoiffant dans son art. Il l'a prouvé en défigurant le buste en plâtre de la Marseillaise. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure voix pour lui, mais ça me fait marrer quand même.
Et la troisième allégation ne peut nous être contée que par Alain Soral.
Alors voilà, hein, la profanation de l'Arc de Triomphe n'a pas eu lieu, hein, c'est un grossier montage vidéo. Tout désigne comme auteur le FSB de Vladimir Poutine, hein, ça c'est vérifiable. Il aurait envoyé des espèces nazes, hein, déguisées en casseurs, déguisées en gilets jaunes, à la demande de Trump, hein, qui ne souhaitait pas, hein, que les Américains viennent claquer leur fric en France pendant les fêtes de fin d'année. C'est vérifiable, hein, moi je le dis.
Patrick, je me tourne vers toi car tu n'as pas bien écouté. On a dit on répond à la fin, mais tu as répondu dès la première allégation. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Non, en fait, c'est une phrase de Nicolas Dupont-Aignan qui a dit à un moment donné, qui a parlé des petits casseurs de Castaner, laissant entendre que toutes ces manifestations qu'on a connues pendant le mois de décembre ont été inspirées par le ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs a porté plainte, et donc l'affaire est pendante, comme on dit aujourd'hui dans les affaires de justice. Vous savez, on peut jeter beaucoup de choses comme ça en pâture, parce qu'au fond, qu'est-ce qui excite les gens? C'est quand justement il y a l'idée d'un complot. On ne vous dit pas tout. Les médias traditionnels sont achetés par les uns par les autres. En revanche, nous, petits personnages venus d'en bas, qui nous exprimons d'ailleurs d'une manière anonyme assez souvent sur
c'est
Twitter.
C'est pas le vrai PPDA, etc. C'est un clone.
Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça a toujours marché et ça marche de plus en plus.
Non, autrefois, ça marchait moins.
C'est pas nouveau. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. À la Révolution française, c'était le complot permanent. Dans le peuple, à la cour, partout.
Non, tu veux dire que la Révolution française, puisque tu es monarchiste, était un complot.
Non, certains disaient qu'elle était un complot.
Non, elle était un complot.
Attends, moi, je suis monarchiste de cœur et républicain de raison.
Oui, c'est mais pas donc, tout à fait pareil. De cœur, ça veut dire que tu penses bien qu'à un moment, il y a eu un complot.
Mais il y a des vrais complots et puis il y a des rumeurs de complots.
Alors, pour enchaîner et pour revenir au secours d'Alain de Morandais, en effet, par exemple, on a prêté à Marie-Antoinette cette phrase voilà. « Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche ». Elle n'a jamais dit ça.
Jamais.
Et ça a été repris encore, il n'y a pas très longtemps, par la plupart de nos hommes politiques. Or, en fait, c'est une phrase qui est tirée de Jean-Jacques Rousseau 20 ans plus tôt, dans un ouvrage qui n'a aucune espèce de rapport. Mais comme ça, ça démarre vite une rumeur.
Donc, on ne peut pas situer l'entrée dans une ère du doute permanent à un moment.
Je pense que ça a toujours existé. Oui. Alors, évidemment, ça a commencé à prendre énormément d'importance
avec
au
Internet.
Moment... Oui, et puis surtout les Twin Towers. Quand des gens ont dit « mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'avion, il n'y a pas eu de ceci, regardez, c'est pas possible, tout ça », eh bien, il y a plein de gens qui l'ont cru.
Est-ce qu'il y a des complotistes chrétiens? Je pense aux protestants qui ont lancé une rumeur comme quoi la Vierge n'était pas Vierge.
Alors, par rapport aux protestants, je vais vous dire quelque chose de très simple. Lundi soir, je faisais un débat avec le grand rabbin Corsia au Cercle Monterland. Et Blandine Kregel était là, c'est une spécialiste du XVIIIe siècle. Et elle me disait que précisément, les protestants étaient dans tout complot, entre guillemets, favorisant la Révolution. Et ça date du XVe siècle.
Ah, donc
Clément Marot est protestant. Il y a une filière protestante qui est là contre l'absolutisme de l'Église et royale. Ce qui est assez logique dans la mentalité protestante. Ça remonte à très loin.
Donc, j'avais raison, finalement.
Oui. Ben
c'est incroyable. Je pensais déconner, mais je me rends compte que les protestants étaient réellement
des complotistes.
Eh ben,
les d'Orléans sont les francs-maçons.
Je crois qu'il est temps d'arrêter cette partie. Sinon, ça ne va pas durer longtemps, ces conneries.
Et sur cette partie, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui a marqué le point concernant les complots.
Et Anissa qui a travaillé.
Et Patrick Poivre d'Arvor mène
champagne.
Maintenant 6-5. Bravo Patrick. Carl Zéro et ses tontons flingueurs flinguent toute l'actu jusqu'à 17h sur Europe 1. Dans un instant, on va parler de l'épiphanie. Et puis, on va écouter de la musique. Un bon groupe de tontons flingueurs. Pink Martin. Dans un instant.
Sympathique.
Et jusqu'à 17h, vous êtes avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs qui revisitent toute l'actualité. On s'amuse et on s'informe. Avec aujourd'hui autour de la table, Patrick Poivre d'Arvor et l'abbé d'Amandé.
Dimanche 6 janvier, on a fêté l'épiphanie. Vous-même, mon père, je sais que vous avez tiré les rois.
Oui, mon fils.
Et toi, Patrick, tu as eu la fève, je parie.
Le plus grand plaisir, c'est de donner une couronne à une reine. Voilà, c'est ça.
Merveilleux, Patrick. Il sait y faire. Mais que savez-vous de cette tradition? Car voici venu le temps du quiz Galette des Rois. C'est un petit QCM, c'est-à-dire, mon père, un questionnaire à choix multiples. Plusieurs réponses vont vous être proposées et vous me dites, selon vous, quelle est la bonne. On y va. L'an dernier, qu'a découvert avec surprise une écolière de Saint-Malo dans la part de galette qu'elle partageait avec ses petites camarades de classe?
Réponse A, un bigorneau.
Réponse B, de la frangipane faite à base de poudre d'algues.
Réponse C, une fève classée X.
Réponse D, une photo de Stéphane Bern qui, lorsqu'il ne vend pas de véranda, n'est jamais le dernier à tirer les rois.
Alors,
le bigorneau, ça, c'est séduisant en tout cas.
Le bigorneau est séduisant, oui, Patrick. Je te découvre. Eh bien non, c'était une fève classée X. La fève, représentant une position érotique, se trouvait dans une galette destinée à un club de rugby à l'origine. Et les deux galettes avaient été échangées à la boulangerie par une petite friponne. Et donc, la fève représentait un couple dans une position du Kama Sutra, en bas de la fesse, l'inscription missionnaire, ne laissait pas l'ombre d'un doute. Enfin, quoique, chez vous, mon père, ça aurait pu être un père blanc venu porter la parole. Mais que faisait-il dans cette position? On ne saura pas. La question, c'est, un tel mercantilisme teinté d'érotomanie, est-ce acceptable?
Je ne suis pas bégueule.
Je m'en étais rendu compte. Deuxième question. Pourquoi cette année encore n'y a-t-il pas eu de fèves dans la galette des rois de l'Élysée?
Réponse A. Parce que c'est une tradition de Gaulois réfractaires au changement qui, comme les minima sociaux, coûte un pognon de dingue.
Réponse B. Parce que la République a hissé l'égalité comme vertu cardinale et qu'il faudrait en mettre une dans chaque part.
Réponse C. Pour que le président ne puisse pas être couronné même s'il en rêve.
Réponse D. Pour éviter qu'en tombant dessus, Macron ne devienne un sans-dents. Ce qui aurait fait plaisir à Hollande.
Oh là 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 là. Aucune.
Comment aucune? Si, il y en a une qui est bonne.
Il y en a une qui est bonne?
Ben bien sûr. Oui. C'est pour que le président ne puisse pas être couronné. Parce qu'il s'agit d'un héritage de la Révolution qui tenta de remplacer, à une certaine époque, l'épiphanie par une fête des sans-culottes, tu t'en souviens certainement. Ouais. Et la galette des rois par la galette de l'égalité. En clair, en République, le roi n'a plus sa place ni sur le trône.
Mais l'égalité est une fiction.
Oui, mais ça, on en parlera hors antenne.
Il faudrait parler
il ne faut pas le dire aux auditeurs.
Équité, c'est pas la même chose.
Équité, égalité, tu as raison, mais ça n'est pas non plus une émission 100% philo.
Je comprends. Ça, on s'en était aperçu. Hein.
Et pourtant, Patrick, depuis le début, on sent chez Macron une attirance pour le décorum, la morgue prêtée à l'ancien régime, n'est-ce pas?
Alors, je dirais pas forcément la morgue, mais en tout cas, les habits du pouvoir. Ça, c'est incontestable. Ça a été dès son intronisation.
Incroyable, le Louvre.
On l'a vu au Louvre.
T'as vu le Louvre?
Louvre qui a d'abord été la résidence des rois, hein, avant d'être un beau musée. Donc, on sait que ça lui plaît. Ce côté jupitérien qui, alors, souvenez-vous, à ce moment-là, avait été salué par toute la presse. La presse dont il est bien connu, qu'elle lèche, ensuite qu'elle lâche, et puis après qu'elle lynche. Hein, ça, c'est une chose que nous connaissons dans nos milieux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, tout le monde disait « Ah, ça y est, on a retrouvé la pompe. »
C'était De Gaulle et Mitterrand.
Ça nous manquait, oui.
Mais
ouais, c'est
drôle.
Et puis après, on a dit « Bah non, c'est trop. »
Beaucoup plus facile. Comment appelle-t-on un collectionneur de fèves?
Réponse A, un fabophile.
Réponse B, un favophile.
Réponse C, un épiphanophile.
Réponse D, un Dominique Strauss-Kahn, grand amateur de fèves, mais aussi de figues et de petits abricots.
Merci Anissa.
Entre le A et le B, j'imagine. Ouais.
Fabophile ou favophile?
B.
B, un favophile. Eh bien non, mon père, c'est un fabophile. À noter, parmi les fabophiles les plus célèbres, on compte le regretté Jean Lefèvre. Fève Adams. Et également Fève Ruggieri. Message personnel, Pascal Atenza vient d'être viré pour avoir écrit ces vannes de merde. Anissa, qui a gagné cette manche?
Il n'y a pas eu de point de marqué, donc c'est toujours Patrick Poivre d'Arvor qui mène 6-5 face à la baie de la Morandée.
Alors, une petite question pour l'abbé. Pourquoi est-ce que dans les municipalités ou à l'Élysée, ils tirent la galette des rois alors qu'on n'a pas le droit de faire de crèche dans ces mêmes endroits? Est-ce qu'il n'y a pas de poids, de mesure? Il me semblait que depuis la séparation de l'Église et de l'État...
Alors, il y a une réponse très simple qui pourrait être faite pour les crèches. Il suffirait de mettre un rabbin et un imam et le taureau est joué.
Tu veux dire autour entre le bœuf et l'âne, il y a sûr. Aussi le rabbin, les bien moutons, tout ça.
J'ai proposé ça, un agnostique aussi, ce serait compliqué.
Un agnostique qui serait représenté par toi, Patrick.
Non, Luc Ferry.
Tu reviens vers le... Vers,
oui, ça me dit, j'aimerais croire.
Voilà. Ça te titille.
J'aimerais croire.
Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 jusqu'à 17h. Carl Zéro et ses tontons flinguent l'actualité. On revient dans un instant.
16h, 17h, Carl Zéro sur Europe 1.
On s'amuse et on s'informe tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 17h. Avec Carl Zéro et ses tontons flingueurs aujourd'hui autour de la table. Patrick Poivre d'Arvor, qui en plus nous présente son nouveau livre La Vengeance du Loup, qui sortira dans 2 jours et qui est paru chez Grasset. Et l'abbé de la Morandée est également avec nous.
Vous l'avez sans doute remarqué, preuve de votre sagacité légendaire et sans faille, un nouveau ton horripilant a envahi un peu plus chaque jour nos antennes. Ganesh.
Vous l'avez sans doute remarqué. Preuve de votre sagacité sans faille, un ton nouveau et horripilant envahit chaque jour un peu plus les antennes, surtout depuis l'arrivée des chaînes d'infos en continu.
D'où sort ce ton de merde, Patrick? On leur apprend ça à l'école, imagine l'abbé si c'était pareil à la messe.
Il prit le pain et le rompit, et le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ».
Le résultat, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce qu'on n'écoute plus que cette musique des mots qui semble totalement dénuée de sens, non?
Alors c'est très intéressant parce qu'en effet, au départ, il me semble, je ne voudrais pas incriminer qui que ce soit, mais je pense que c'était dans les émissions de M6 type Capital.
Ça, voilà.
C'est là qu'ils ont inventé un ton bon, qui était propre à cette émission.
Et il est enseigné aujourd'hui.
Et alors non seulement ça, mais
il est
par capillarité, il s'est répandu partout. Et alors le plus terrible, et Gamesh nous l'a très bien fait sentir, c'est qu'on coupe une phrase au milieu. On est en train de raconter quelque chose, puis au milieu de la phrase, on se tait, et puis on continue, ça n'a aucun sens. Et les gens ne parlent pas du tout comme ça.
Alors, vrai ou fausse info, voici le quiz BFM TV, qu'on pourrait appeler le quiz M6 aussi. À vous de me dire si c'est une vraie ou une fausse info, mais c'est le même ton. Info numéro 1.
Alors qu'il assistait au Davos du désert, malgré de nombreuses annulations d'autres participants protestants contre l'assassinat de Jamal Khashoggi, Patrick Pouyanné, PDG de Total, a pris tout le monde à contre-courant. Il a ainsi accepté un cadeau de bienvenue, un porte-clés réalisé avec les doigts du journaliste assassiné, remis par MSB, le prince héritier lui-même.
L'abbé fait non de la tête. Patrick
de tout mon corps, non.
Non, de tout ton corps.
Je mais on y croit pourtant.
On y croit pourtant.
Eh ben ouais, info numéro 2.
Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, dont la candidature à sa propre succession pour un 5e mandat se confirme, pourra briguer 2 nouveaux mandats consécutifs grâce à une carte de fidélité. En effet, selon la constitution algérienne, au 5e mandat, le 6e est offert. Questionné à ce sujet, le président algérien n'a pas répondu, étant personnellement dans le coma depuis maintenant 8 ans.
Mais le rire, le sourire, parce que c'est très bien raconté. Mais non, ça n'existe pas. Mais il est vrai qu'il souhaite se présenter pour un 5e mandat, alors qu'on ne l'a pratiquement pas vu depuis 3 ans, en effet, en public.
Et ça, c'est encore plus ridicule que ce ton BFM TV.
C'est inquiétant, en tout cas.
Inquiétant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes, aux étudiants, à ceux qui rêvent de devenir journalistes? Est-ce qu'ils doivent faire cette voie ou pas?
Je pense qu'il faut qu'il y ait chacun ait sa singularité.
Sa propre voix.
Il y avait la voix Carl Zéro.
La voix Patrick.
Content de vous retrouver. Bon, chacun a sa voix. Faut pas que tout le monde s'imite et se copie.
Mais alors, plus grave, comment leur éviter aux journalistes de se faire péter la gueule dès qu'ils sortent avec une caméra? Parce que c'est quand
alors,
même la mode
là,
maintenant.
Là, c'est vraiment scandaleux. Et en plus, c'est parfaitement dégueulasse. Parce que ces chaînes d'information en continu ont beaucoup aidé le mouvement des Gilets jaunes, ne serait-ce qu'en en parlant en permanence. Donc, pourquoi se retourner contre eux alors que, justement, ils ont servi un peu de tremplin? Non, et puis, de toute façon, quoi qu'on pense de ce que dit un journaliste, voilà, on est obligé. C'est la liberté de la presse. Chacun a le droit de s'exprimer, mais on n'a pas le droit de s'exprimer avec les poings.
Mon père, tu as fondé Radio Notre-Dame.
J'ai cofondé.
Et comment on faisait les infos sur Radio Notre-Dame? Il y en a d'ailleurs.
À l'époque, il n'y en avait pas.
Et maintenant, il y en a?
Actuellement, j'écoute pas.
Bon, alors, si vous savez, vous appelez le 3921, personne ne sait. S'il y a des infos, non, parce que je me disais peut-être qu'ils les choisissaient comme ci, comme ça, si elles étaient dans un sens christique ou pas christique, non ?
Non, à l'époque, moi, j'avais deux émissions par semaine. Je faisais le chancel de la station et donc j'invitais BHL, Dormesson, qui je voulais, quoi. Ouais. Né Girard, c'était passionnant pour ça.
Europe 1. Le bilan de cette manche, eh bien, c'est toujours Patrick Poivre d'Arvor qui est en tête, mon cher Karl, et qui mène face à la baie de la Morandée.
Mais ça me paraît injuste.
Bah,
ça, je pense que vous trichez.
Moi, je
vous
croyez pas leur donner mes voix si le...
Pourtant, je suis incorruptible.
Les voix du Seigneur sont impénétrables.
Restez avec nous sur Europe 1.
Baptiser, alors, à l'heure.
Jusqu'à 17h, on s'amuse autour de l'actu avec Karl Zéro. Jusqu'à 17h, on s'informe dans la bonne humeur avec Karl Zéro et ses tontons flingueurs autour de la table aujourd'hui. L'abbé de la Morandée et Patrick Poivre d'Arvor.
Salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Les chiffres parlent, vous avez été plus de 12 000, ça fait 6 fois 2000 à jouer aujourd'hui au jeu de la fausse pub d'Europe 1. Vous le savez, every day, chaque jour, Karl Zéro, entouré de ses petits compagnons de bonne fortune, parmi lesquels des gilets jaunes, des yellow jackets, comme je les appelle. Et oui, Francis Lalanne aussi, on vous fait gagner un fantastique cadeau de dingue, crazy gift, à une auditrice ou un auditeur totalement aware.
Merci Ganesh. C'est parmi cette foule que Maître Jaunâtre, notre huissier assermenté d'Europe 1, choisis un ou une gagnante sous l'œil impavide, évidemment, de Laurent Guimier, le conducteur de notre station périphérique. Et c'est à l'heure où noircit la campagne, c'est-à-dire maintenant qu'on vous révèle quelle était la fausse pub du jour. Mais avant, Anissa, que va remporter le ou la gagnante ? Faites-nous saliver.
C'est PlayStation 4 Slim qui est à gagner aujourd'hui.
Formidable, radieuse enfant. Et la fausse pub du jour, écoutez bien, c'était celle-ci.
Dans Révolution, publiée en novembre 2016, Emmanuel Macron livrait pour la première fois son histoire personnelle, sa vision de la France dans ce nouveau monde qu'il appelait de ses voeux.
2 ans plus tard, voici Contre-Révolution.
Emmanuel Macron y aborde sans phare ses problèmes de fin de mois, la fin de son mois. Sans S.
Dans ce livre Vérité, le président, désormais philosophe, évoque la problématique de la perte de son moi, jusqu'alors hypertrophié.
Contre-révolution d'Emmanuel Macron aux éditions Bribri. Un livre fort, singulier, qui pose les fondements d'une nouvelle société. Ou pas.
Alors Anissa, qui est l'heureux ou l'heureuse gagnante ?
Eh bien, Karl, il s'agit d'une gagnante et c'est Julie dans Lyon qui remporte la PlayStation 4.
Mais c'est génial !
C'est super. Si vous aussi, vous voulez gagner votre PS4, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Moi, je peux pas tricher, mais elle aurait pas préféré le Thermomix ?
Non, cette semaine, c'est la PS4 toute la semaine. Alors, restez attentifs, repérez la fausse pub et tous les jours, vous pourrez gagner un très beau cadeau sur Europe 1.
Quelle chance, Anissa ! Et pour gagner, vous aussi, cette magnifique console de jeu, restez à l'affût, car j'en glisse une par jour sur Europe 1. Je parle de fausse pub, pas de PS4, Patrick.
Non mais en fait, moi j'aime beaucoup ces fausses pubs, je les trouve super réussies.
Merci
parfois,
Patrick.
On peut se laisser avoir et il y a plein d'auditeurs qui ne savaient pas que c'était signé de vous. Voilà.
Eh bien c'est très agréable, mais pas que signé de moi, oui, il y a également
d'une équipe.
Ganesh,
je fais
il y a Desiderata qui est là dans le public aujourd'hui.
Bravo.
Il y a également la jeune Anaïs. Nous sommes toute une petite équipe. Bien. Alors avant de se quitter, on va ressortir les vieux dossiers pour le quiz de la première fois. Et donc la première fois, Patrick, ça se passe pour toi le 26 février 72.
Qu'est-ce qui s'est passé le 26 février 72 pour
Mais tu as été dépucelé, voyons. Mais non, pas du tout. On écoute.
Entre deux morceaux de musique, un reportage sur les techniques modernes de transport.
Changer de résidence, c'est-à-dire déménagement. Plus fréquent, soit parce que la famille s'agrandit, soit parce que le lieu de travail a changé, soit parce que soi-même, on a tout simplement envie de changer. Monsieur Moreau, vous êtes un spécialiste. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que 3 déménagements valent toujours un incendie ?
Non, 3 déménagements ne valent plus un incendie.
Qu'est-ce que c'est que cette question de merde, Patrick ?
Je ne sais pas où je suis allé la
c'est
chercher.
C'est quoi ce jeu,
mais
déjà ?
C'est bien moi. C'est bien moi. Et c'était Albert Reissner, je me souviens, qui était un personnage important. Voilà. Et on m'avait demandé de faire une petite... Voilà, je travaillais à la radio à ce moment-là. C'était pas Europe 1, mais c'était bien aussi.
Ah oui, mais on te voit là. On l'a chopé sur
c'était
Lina.
C'était la première fois que
t'es à la télé.
J'apparaissais à la télévision pour faire un petit truc de pas grand-chose. Quoi. Et j'avais fait un petit reportage. Et
transport, déménagement.
Oui, oui.
C'est un sujet passionnant.
Oui, mais enfin, en même temps, je me suis aperçu que plus tard, ça m'a servi. À chaque fois que j'étais viré d'une... Il fallait bien qu'il y ait des cartons et tout ça.
Alors du coup, il y a eu un incendie ou pas finalement?
Il n'y a pas eu des incendies. D'accord, pas encore.
On va continuer maintenant avec notre ami l'abbé. Est-ce que tu te souviens de ce jour de novembre 87? C'était sur Feu la 5.
Il y en a tellement eu que...
Chaque jour, Alzheimer fait de nouveaux dégâts. L'abbé, reprends-toi. Tu étais face à ce nervi. L'abbé de Laguérie. L'abbé de Laguérie.
Ça, je m'en souviens, oui, très bien.
Saint-Nicolas du Chardonnay.
Oui.
À l'époque.
Alors, j'ai une tactique dans ces cas-là pour déstabiliser avant de rentrer sur le plateau. Il me tend la main. Ça s'appelait Duel, l'émission.
Duel sur la 5.
Oui, Duel sur la 5. Il me tend la main. Je dis, monsieur, vous ne connaissez pas les traditions. On ne se tend jamais la main avant un duel.
Bien joué. On écoute.
Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a 55 millions de Français. Sur 55 millions de Français, il y a 45 millions de baptisés. Il y a 15% de pratiquants réguliers, soit 5 à 6 millions de pratiquants réguliers. Il y a 36 000 prêtres en France.
Combien avez-vous de personnes à votre grand-messe du dimanche?
C'est facile à vérifier. Il y avait des caméramans de la 5e chaîne dimanche dernier. Voilà. Nous sommes un millier chaque dimanche.
Alors, c'est fou,
sur un petit 150, 200
à la messe.
Ah, il est échafouin, Laguérie. Il dit que t'avais que 150 pèlerins au lieu de 1000. Tu peux dire la vérité maintenant. Tu en avais 1000 ou 150?
1000.
Non, tu en avais 200.
Le doute subsiste.
Non, mais à l'époque, lui, il remplissait Saint-Nicolas du Chardonnay.
Attends, moi, j'ai toujours rempli les églises qu'on m'a données, elles étaient vides, hein.
Non, quand tu arrivais, c'était vide
quand je suis arrivé. Et ouais. Au bout de 3 ans, c'était plein.
C'était plein.
Dans le 14e Notre-Dame du Travail, c'était vide.
Mais
c'était
ouais, tu faisais le boulot, tu faisais le show. Mais que sont devenus les intégristes catholiques?
Oh, ils se portent très bien. Hein.
Ah, il y en a encore. Non, il y en a encore.
Mais bien sûr qu'il y en a. Au moment d'une radicalisation de l'islam, il y a forcément une augmentation de la radicalisation des intégristes catholiques.
Bah, ils ne font pas d'attentats encore.
Non, c'est pas leur genre. Mais avec une certaine Marion Le Pen, on peut s'attendre à beaucoup de choses.
Ah, c'était un message politique de l'abbé de la Morandais, très habile, très bien placé. Alors on va faire maintenant le bilan de l'émission. Je me tourne vers Anissa. Anissa.
Eh bien, après toutes ces manches et tous ces points, c'est Patrick Pauvre d'Arvor qui remporte la partie aujourd'hui.
Merci Anissa.
Et je ne me souviens plus du tout s'il représentait la France d'en haut ou la France d'en bas.
La France d'en bas.
L'en bas. La France
et donc
d'en
il remporte moins 5% sur une sélection d'articles chez Kéhabille, Martine Aubry. Patrick Poivre d'Arvor, qu'on retrouve dans son nouveau roman La Vengeance du Loup qui sort mercredi. Alors, ça fait penser au grand feuilleton du 19e siècle, Patrick.
Ouais, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut devenir président de la République.
Ça c'est Macron.
Quand il a 12 ans, il perd sa mère et son monde s'écroule. Et après, il a cette ambition et qui va le mener, alors vous verrez bien où, jusqu'au bout, il faut lire le livre évidemment, et il va rencontrer ce milieu dont on a beaucoup parlé tout au long de cette émission, hein, des politiques, des journalistes, et puis des intrigues, et puis des amours. Voilà, en effet, j'aime beaucoup ces feuilletons à la Alexandre Dumas et tous les feuilletonistes du 19e qui allaient apporter leur copie le soir dans les journaux, et puis le lendemain, tout le monde s'en dégustait. Et l'écrivain ne savait même pas ce qu'allait être la suite et il le faisait.
Merci Patrick, merci l'abbé de la Morandais, vous êtes formidables tous les deux, je vous aime d'amour. Et demain, nous recevrons deux autres tontons flingueurs émérites. Il s'agira de Jean-Louis Debré et de l'incroyable, insurpassable Chantal Goya. Europe 1. de suite, place à Mathieu Béliard et son grand journal du soir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Karl et bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. C'est parti pour 3 heures d'infos et de débat avec toute mon équipe qui va s'installer autour de la table. Votre grand journal du soir, ce rendez-vous que vous avez avec la rédaction d'Europe 1. Je vous attends au 39-21. Les annonces d'Edouard Philippe hier pour contrer les casseurs, les violences, est-ce qu'elles sont suffisantes? Vous nous le dites ce soir. La violence s'est-elle banalisée à travers ce mouvement des Gilets jaunes? La question se pose. Nous parlerons aussi beaucoup de cette cagnotte en faveur du boxeur Gilet jaune. Vous savez, est-ce une prime à casser du flic, comme dit le syndicat de police Alliance? Je reçois Alliance à 17h40. Je vous reçois tout au long de cette émission au 39-21.
Merci Mathieu, à demain 16h sur Europe 1.
Europe 1.